Un très bon vendredi matin, tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On a un beau programme pour vous. D'abord, dans la première heure d'émission, on va parler des nouveautés au Salon de l'Auto de Montréal. Vous savez que c'est comme une grande activité au mois de janvier. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois, d'ailleurs. Et je sais que vous êtes très nombreux à vous baser sur les conseils de nos invités ici à cette émission pour aller voir un peu aussi ce qui se passe dans le domaine de l'auto, mais aussi pour faire vos choix. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais vous d'ailleurs donner nos numéros d'entrée de jeu pour pouvoir joindre nos invités qui sont, je vous les présente à l'instant, Benoît Charrette, rédacteur en chef de l'annuel de l'Auto 2020.
Salut.
Merci d'être là, Benoît. Grosse semaine pour les gars de char.
Oui, le marathon commence, nous
voilà,
autres.
Voilà, il s'est tout mis propre, notre ami Benoît.
Ben oui, c'est de valeur qu'on ne soit pas sur Facebook.
Ben oui, on pourrait se mettre sur Facebook, là, si ça nous tentait. Carl Nadeau, expert conduite Michelin, pilote automobile, merci d'être là, Carl.
Salut,
toi
Isabelle.
Toi aussi, t'es bien ta personne. Merci beaucoup d'être là.
Rien de mieux qu'un coton ouaté, Isabelle.
C'est ça, puis une barbe. C'est très nouveau, ça. 514-790-9850, ça c'est pour nous joindre dans la grande région de Montréal. Posez des questions si vous en avez ou des commentaires, bien sûr, pour nos invités. Et de l'extérieur, vous le savez, vous faites le 1-866, c'est gratuit, 790-9850. Mais je vais vous dire aussi qu'en deuxième heure d'émission, je vous le dis tout de suite pour que vous restiez à l'écoute également, il y a en deuxième heure d'émission la chroniqueuse voyage Marie-Julie Gagnon qui va nous tenir au courant des tendances voyage 2020. Puis ça tombe bien parce qu'en ce moment, les tendances touristiques de l'année vont sortir. Il y a un colloque à Montréal la semaine prochaine. Et donc, nous, on le fait un petit peu avant tout le monde. Marie-Julie va nous dire où vous serez peut-être tenté d'aller cette année. Et on a en entrevue sans filtre l'humoriste Michel Barrette. Fait que vous avez, hein? Méchant programme. On commence avec nos gars de char. Hein?
Ben absolument. Vous allez en avoir un pour finir parce que Michel Barrette.
Tu le fais, moi, matin?
C'est un gars de char.
Ouais. Oui, écoute, incroyable. Il y a déjà eu 183 véhicules, il y en reste 22.
Mais tu réalises qu'une demi-heure avec Michel Barrette, vous n'aurez pas le temps de rien dire.
Mais moi, je me dis une heure avec vous deux, comment va-t-on y arriver? Parlons de la frénésie. Là, on parle beaucoup de la frénésie des véhicules électriques. Abordons d'abord notre sujet comme ça parce que c'est vrai que depuis mai dernier, c'est-à-dire au moment où le fédéral a bonifié là, ouais, avec des nouveaux incitatifs financiers, tout ce qui s'appelle véhicules électriques, ça a eu un impact direct sur les ventes de véhicules. Là, ce matin, sort le chiffre de 71%. Mm-hmm. Ça, c'est les véhicules immatriculés au Québec qui ont grimpé là, de ce... C'est 71% plus
l'augmentation.
De véhicules. C'est énorme.
Exact. C'est
énorme, là, ça.
Tant et si bien que l'objectif que l'on avait tous un peu trouvé ridicule de 100 000 véhicules électriques sur les routes au Québec à la fin 2020 risque fort d'être atteint. Ce que moi, personnellement, je trouvais... extrêmement ambitieux quand on a, c'est en 2015, je pense qu'on avait annoncé ça, on était très, très, très loin. Mais le fait d'ajouter un 5 000 $ aux 8 000 $ qu'on a déjà du provincial, ça a convaincu pas mal de monde. Et là, on commence à avoir une offre intéressante. Il y a une vingtaine d'autos, je pense, dans l'espace réservé aux véhicules électriques au Salon de l'Auto. Et on va en ajouter, là, bon, c'est pas compliqué, tous les constructeurs en annoncent, là. Bon, faut juste décortiquer le message, parce que des fois, ils annoncent 23 nouveaux véhicules, mais il y en a 17 en Europe, 5 aux États-Unis, puis 2 au Canada. Fait que faut décortiquer le message, mais chose certaine, tout le monde va amener des nouveaux véhicules électriques sur la route dans l'année et demie qui s'en vient. Là.
C'est ça, c'est important de le dire, ils ne sont pas forcément tous disponibles ici.
Non.
Carl, est-ce que tu es d'accord toi aussi pour dire que peut-être que les incitatifs vont faire en sorte qu'on arrive à ce... Ça, c'est pas rien ce que tu viens de dire, Benoît. Ça veut dire que le 100 000 véhicules électriques au Québec qu'on prévoyait en
2020,
d'ici la fin de l'année.
On s'enligne pour l'atteindre quelque part en décembre, donc on va vraiment être là fin 2020.
Carl? Si on veut être réaliste, quand on parle directement au portefeuille des Québécois, les incitatifs sont tellement gros qu'il y a des gens qui n'avaient aucun intérêt pour l'électrique. Mais quand tu te mets à faire les calculs avec les rabais que t'as, en plus de l'économie, ben, il y a des gens qui disent « Écoute, j'ai pas les moyens de pas me lancer, sans compter la valeur de revente qui est souvent assez, assez intéressante quelques années plus tard pour les électriques. » Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au moment où on parlait de ça en 2015 et on était presque tous les journalistes, on était tous sceptiques un peu de l'atteinte de ce chiffre-là. Mais depuis ce temps-là, les manufacturiers offrent des véhicules qui ont beaucoup plus d'autonomie. Donc là, ça devient intéressant, ça devient logique pour la conduite de tous les jours. Parce que quand c'était que des véhicules qui avaient 150-200 km d'autonomie, ben t'as beau te faire dire par ton vendeur, oui, mais dans la vie de tous les jours, tu fais pas beaucoup plus que ça. Mais la réalité, c'est que si tu peux pas te rendre à Québec à partir de Montréal sans être obligé de t'arrêter sur une borne rapide, ça commence commence à être un peu cow-boy et avoir une voiture électrique, alors que maintenant, là, des offres de 300, 400, 500 km d'autonomie, ben là, on a peu ou pas de raison pour oublier de se lancer, là.
Ouais, Benoît, quel est le plus grand impact de ça, là? Parce que ça va changer le paysage.
En fait, les impacts sont nombreux. C'est sûr qu'on prépare aussi tranquillement la société. Là, circuit électrique va avoir 2500 bornes de recharge d'ici la fin de l'année. On n'était pas à la moitié de ça il y a 3 ans seulement.
C'est des bornes rapides, ça, ou c'est des bornes standards?
En fait, on améliore le nombre de bornes rapides. Parce que le problème, à mon avis, et là, c'est un avis personnel, on a trop misé sur des bornes de phase 2, des bornes 240. Oui, j'arrête de temps en temps dans un Saint-Hubert ou dans un Rona, mais je reste une heure. Je reste une demi-heure. C'est 7 heures, 8 heures en moyenne. Si on a une Tesla, c'est 13 heures sur une phase 2. C'est du 240, 32, 32 ampères. Alors qu'une phase 3, qui est 400 volts, là, on recharge à 80 % en à peu près 30 minutes. Ça fait du sens. 30 ouais. minutes, on peut dire, OK, on va prendre une petite marche, on va s'étirer. Dans une demi-heure, on est reparti.
Il y en a encore trop peu, de celle-là, malheureusement.
Tu sais combien il y en a de ça?
On est, oh mon Dieu, sur les 2500, on vise à en avoir 600 d'ici la fin de l'année.
Fait qu'on n'a pas le quart, là, encore.
On n'a pas le quart, et là, on est en train d'en construire. Donc, on en a ajouté, mais c'est venu tard dans le processus, puis c'est ce qui a ralenti. Parce que même si 90 % des gens rechargent à la maison, Carl a bien souligné, si vous allez à Québec, puis vous êtes obligé d'arrêter à Drummondville, en espérant que la borne rapide à Drummondville ne soit pas prise par quelqu'un.
Parce qu'il y en a une, si t'es chanceux.
Oui, c'est ça. Alors donc, mais là, on en a ajouté. Tesla était le premier à le faire. Le problème des Tesla, c'est qu'il faut que tu aies une Tesla.
Ouais, puis surtout des journées
si
comme aujourd'hui.
Si tu n'as pas une Tesla,
là,
tu ne peux pas charger.
Non, c'est sûr, en plus.
J'ai d'ailleurs fait une rencontre, Isabelle, absolument extraordinaire hier, parce que j'ai été un qui était très réticent au début de la voiture électrique, parce que je trouvais justement que l'offre correspondait pas réellement aux besoins, puis t'as beau être pour la vertu, mais il y a des limites, là. À un moment donné, être vertueux, mais à pied. Donc, on a tous besoin d'un véhicule. Et je trouve que souvent, ceux qui nous prônent la voiture électrique sont souvent en mode limite agression en disant « Pourquoi tu roules à l'essence? Ça n'a pas de bon sens. T'es un pollueur. »
On parle de secte poliment.
Oui, gentiment et poliment. Mais j'ai rencontré des gens en mode solution hier et j'ai aucun lien avec la compagnie, mais je vais quand même les nommer parce que ça vaut la peine. Les gars de Watson Innovation, un coup de cœur total. Ces gars-là sont positifs, gentils et eux, ils disent, qu'est-ce qui vous agace avec les voitures électriques? Eux autres, ils vont faire des bornes, même des abris d'auto, mais qui sont faits avec des panneaux solaires et ils ont fait des nouvelles bornes aussi qui sont logiques parce que moi, ce qui m'agace avec une voiture électrique, tu sors ton fil, le fil est plein de calcium parce que le calcium a fondu en dessous de ton auto, fil traîne là-dedans, tu salis ton manteau. Eux autres, ils ont des bornes rétractables.
T'es un gars pratique, Carl.
Tu sais, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a le temps d'avoir ces agréments, désagréments-là? Tu t'en vas travailler, ton manteau, tes pantalons sont sales, t'es pressé, rentre en dedans, tu te changes. On n'a pas le temps de faire ça, là. Donc, eux, ils ont des bornes là, qui sont rétractables avec le tuyau qui ne traîne jamais à terre. Justement, des gazebos qui vont non seulement charger ta voiture, mais en plus, le surplus, parce que quand ta voiture n'est pas branchée, les panneaux solaires, ils prennent quand même de l'énergie. L'énergie va être redonnée dans le réseau d'hydro, ce qui fait que tu vas avoir un crédit après ça sur ton électricité. Ben ça, moi, ça me parle. Ça, c'est parlez-moi de choses qui me font avancer, qui sont logiques, qui vont éventuellement être économiques, puis qu'en plus, tu vas en redonner pour la planète. Donc, ça existe.
J'ai un très bon commentaire de Guy qui pose la question, puis on va donner la parole à nos auditeurs parce que déjà, nos lignes sont pleines. Vous pouvez nous appeler également tout au cours de la prochaine heure en faisant le 514-790-9850. On parle bien sûr des nouveautés au Salon de l'Auto de Montréal qui commence là aujourd'hui. Guy demande si la demande est si forte en matière de véhicules électriques, comment se fait-il que les fournisseurs ne réussissent pas à avoir des délais raisonnables de livraison? Puis ça, c'est vrai qu'il y a des gens, là. C'est prends ton ticket, mets-toi en ligne, puis attends.
Tu veux la réponse rapide?
La vraie réponse.
Les constructeurs ne font pas d'argent avec les véhicules électriques. Si on inonde le marché de véhicules électriques, on va perdre trop d'argent.
Alors,
on
limite. Ils font pas d'argent, Benoît?
Non. Au moment où on se parle, il n'y a aucun constructeur électrique qui est profitable dans la vente de ces véhicules 100% électriques. Et Tesla est inclus là-dedans.
Mais Tesla, on le sait, là, parce que c'est souvent dans le journal.
C'est le cas de tout le monde.
Mais même un constructeur.
Un Ford, un Hyundai, un Mercedes, un Audi. Audi a même volontairement reculé dans la quantité d'Audi e-tron qu'on a fabriqué parce que, un, le prix est très cher et deux, on n'a pas vendu autant qu'on pensait qu'on pourrait en vendre, mais on retient volontairement le nombre de véhicules disponibles parce qu'on fait pas d'argent pour le moment.
Est-ce que l'électrique finit par la bande vendre quand même des voitures à essence beaucoup plus économiques qu'elles l'étaient à l'époque?
Ben, ultimement, les manufacturiers font des efforts aussi là, parce qu'on parle que d'électricité, mais en réalité, la consommation des véhicules a considérablement diminué dans les dernières années. Tu parles d'un pick-up, par exemple, une fameuse camionnette. Bon, c'est sûr que c'est toujours la victime de raillerie par excellence de dire c'est épouvantable, les jeunes n'ont pas besoin. Mais la réalité,
c'est que tout le monde en achète au Québec.
Qui en a besoin aussi. Oui. Puis quand tu as un VTT, une motoneige, quand tu fais le moindrement de la construction par plaisir, les gens disent t'as juste à t'en louer un ou louer une remorque quand t'as besoin. Dans la vraie vie, là, je m'excuse, mais le samedi matin, tu veux faire des rénovations chez vous, tu vas te louer un pick-up, une remorque. Ça n'a pas de sens. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin, mais regarde la consommation il y a 10 ans pour aujourd'hui, on s'améliore beaucoup. Là.
Et il faut bien comprendre une chose. Les compagnies sont là pour faire des sous. Les camions sont les vaches à lait des constructeurs automobiles. Malheureusement, dans les nouvelles normes environnementales qui s'en viennent et les nouvelles normes au niveau de la consommation de carburant, les camions sont encore trop élevés. Donc, ça force les constructeurs à amener des hybrides branchables et des voitures 100% électriques parce que la moyenne des constructeurs est calculée sur tous les véhicules. Le fameux CAFE, le Corporate Average Fuel Economy, dit, bon, ben exemple, en Europe, l'an prochain, on va être à 4,1 litres au 100 de moyenne pour les constructeurs automobiles.
Wow.
Donc, si tu as un F-150, un Ram ou un Silverado qui est à 12, 13... faut que tu en aies un paquet à zéro pour ramener ça. Là. Donc, ça aussi, c'est une réalité. Donc, on s'en va vers un modèle d'affaires qui est nouveau. On plonge un peu dans le vide en sachant pas trop qu'est-ce que ça va donner. Mais on n'a pas le choix d'y aller parce que les modèles qui nous rapportent de l'argent, on peut pas y retirer de la route.
Fait que donc, c'est comme les constructeurs, pour répondre à la question de Guy, c'est que finalement, les constructeurs savent qu'ils n'ont pas le choix de faire l'électrique. Parce que ça attire les gens, parce qu'il y a une demande du consommateur. Mais là, ils sont comme un peu... Ils regardent la grosse demande forte, mais eux, ils veulent quand même passer un véhicule à essence.
Voilà, on
fait le calcul
de dire...
Idéalement, c'est là qu'ils font de l'argent.
Voilà, on fait le calcul de dire qu'est-ce qui est intéressant, à quel point on est capable de perdre de l'argent, mais en respectant les normes qui s'en viennent, en continuant de vendre des véhicules qui nous rapportent beaucoup d'argent.
514-790-9850. Si vous avez des questions pour nos invités, je vous rappelle qu'on est en compagnie de Benoît Charrette, rédacteur en chef de l'annuel de l'Auto 2020. Carl Nadeau est pilote d'automobile, expert conduite Michelin. Si vous avez des questions sur les véhicules automobiles ou toute autre anecdote qui est en lien avec l'ouverture du Salon de l'Auto, ne vous gênez pas pour nous le dire. À tout de suite, tout le monde.
Si j'avais un char...
Hey, c'est en version live quand même, c'est pas rien ce tune-là. Benoît, tu dois connaître par cœur.
Oui, oui, on m'a déjà présenté sur cette chanson.
Quelques fois.
Reprises, oui.
Benoît Charrette, Carl Nadeau sont mes invités. On parle des nouveautés au Salon de l'Auto de Montréal. J'en profite pour vous dire que mon collègue Paul Oud sera en émission spéciale demain, les week-ends de Paul Oud.
Oui, je serai là demain
qui
matin
revient
aussi.
De vacances d'ailleurs avec. Oui, tu y seras. Ça va être en direct demain matin, samedi, au Salon international de l'Auto. C'est au Palais des Congrès. Puis il y aura toute l'équipe, dont Benoît Charrette qui sera là. On a Daniel avec nous. Bonjour, Daniel.
Mais bonjour à tous. Moi, j'aimerais vous dire qu'on est gâtés. On a Isabelle Maréchal la semaine, puis on est rendu avec Paul Oud au Salon de l'Auto
c'est
la
pas
fin
rien.
De semaine.
On rit plus, mon cher Daniel. Avez-vous une question pour nos invités?
Oui, c'est trois petites questions rapides.
Oui.
Vous avez nommé qu'on va avoir la nouvelle Corvette en exposition au Salon de l'Auto.
Oui.
Est-ce que la nouvelle Corvette, un jour, va être comme... j'ai déjà vu votre reportage à RPM par rapport... quand tu pouvais choisir une Corvette pour aller au plan de bâti, est-ce qu'elle va devenir un jour électrique? Ça, c'était le premier volet.
OK. On va y aller une question parce qu'il y a tellement de monde, premier, Daniel. On va vous donner une question.
Premier
donc,
volet, on a parlé du côté de GM d'avoir un modèle hybride. On n'a pas parlé d'un 100% électrique. On a parlé d'un hybride qui est probablement la prochaine ZR1. Là. On s'avance poliment.
De l'aveu de quelqu'un de GM hier,
exact.
Je te confirme.
Et ça s'en vient d'ici 2 ans. Puis il va avoir autour de 1000 chevaux.
Hey, Corvette électrique. pas rien.
Hybride. Un gros,
hybride.
Dans le fond, ça devrait possiblement être une hybride ou une fausse hybride.
Non, une vraie hybride, mais qui va être là pour donner plus de puissance sans consommer plus de carburant. Donc, un hybride qui est au service de la puissance. Deuxième question, rapidement.
Où est rendue la technologie de M. Couture de 1984?
Où est-ce qu'elle est rendue, sa technologie électrique? Elle est rendue nulle part. C'est enterré. On a mis ça. C'est mort. C'est mort et enterré. Ça n'existe plus. Ça.
Merci, Daniel. Carole, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
J'ai une Audi Q5 et je voudrais me procurer un véhicule électrique. Puis ce qui est important pour moi, c'est la durée de la batterie parce que je fais souvent 250-300 km. Puis la traction sur quatre roues parce que j'ai des côtes pas déneigées qui sont devant moi. Alors, qu'est-ce que je peux m'acheter?
Vous voulez absolument un SUV ou une berline, c'est correct?
Non, ça peut être une auto aussi. Oui,
ça peut être une auto. Moi, honnêtement, j'adore le Tesla Model 3. Là. Si on veut être réaliste, je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire, énormément d'autonomie de batterie, parce qu'on n'est pas obligé de se contenter de 300 km. Si vous faites ça régulièrement, c'est sûr qu'il faut reviser une voiture qui aura 4 et même 500 km d'autonomie si vous voulez avoir de la marge de manœuvre, entre autres l'hiver avec le chauffage, ces trucs-là.
Oui.
Donc, moi, j'irais peut-être faire un tour là. C'est une expérience différente d'achat.
Modèle intéressant. Et dans les autres que j'ai essayé récemment, il y a Niro et Hyundai Kona qui, en modèle électrique, sont toutes les deux autour de 400 km à un prix qui, à peu près à 50 52 000, dépendamment de ce que vous allez mettre en équipement. L'assise est bonne.
52 000 moins donc ton rabais de 13 000 $?
En fait, c'est 52 000 plus taxes, plus transport, préparation, moins 13 000.
Moins 13 000 quand
votre
même,
52 là. Coûte à peu près 50. Quand vous avez tout fini, tout calculé, que vous ajoutez les taxes. Là.
Le premier que vous avez mentionné, c'est lequel?
Le Kia Niro, qui a un moteur, en fait, qui est très semblable à celui qui est dans le Kona, mais votre assise est un petit peu plus basse. Le Kona, c'est un petit utilitaire. Donc, l'assise est un petit peu plus haute, mais les deux vont vous donner à peu près, en fait, on en annonce à 385 km, mais dans les faits, j'en ai fait 410 avec. Puis le Kona, on l'annonce à 415, je n'ai fait 426. Alors, ça vous donne une idée. Dans des bonnes conditions l'été. C'est sûr que l'hiver, il faut enlever un 30-40 %, mais les deux vont vous donner un très bon.
Une journée de moins 20 comme aujourd'hui, ça a une influence ça, sur la batterie. Oui. Hein? Oui. On perd à combien?
Le chauffage, les sièges chauffants, parce que souvent, il fut une époque où les gens négligeaient complètement le confort avec les voitures électriques. Mais je pense que des gens, par exemple, madame part d'un Audi Q5, qui est une voiture très confortable, Donc, c'est certain qu'on privilégiera pas de se geler les fesses là, pour sauver de l'autonomie. Donc, c'est important là, aujourd'hui d'avoir des voitures qui ont assez d'autonomie pour pouvoir garder l'expérience de conduite.
Mm. Exact. On peut perdre, journée très froide, on peut perdre 40 %.
Ouais. 40 %?
Ouais, on peut aller là. Donc, il faut le prévoir dans ses déplacements. Si on se déplace aussi l'hiver, qu'on va avoir beaucoup moins d'autonomie.
Puis préchauffer sa voiture pendant qu'elle est branchée.
Oui.
Donc, plus ça va, plus il y a des manufacturiers qui ont une application. Donc, on est capable de dire, bon, moi, je quitte la maison à 7h40 ce matin. Bien, à 7h15, on préchauffe la voiture pendant qu'elle est sur notre système électrique de la maison. Donc notre autonomie va être intacte au départ.
Parce qu'on n'a pas à réchauffer la voiture. Parce que les batteries font tout. Donc, s'il fait moins 20, vous devez tout réchauffer. Vous allez tirer de l'énergie qui ne sera pas utilisée à faire avancer l'auto, mais c'est à réchauffer.
Voilà pour Carole. Bonjour, Simon. Vous avez une question?
Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais savoir si le Honda Ridgeline ou un de ses concurrents va exister bientôt en 100% électrique.
Bon, évidemment, Ford a parlé d'amener le F-150 électrique. Mary Barra de GM a annoncé, je pense, 4 jours après que Ford a annoncé un véhicule électrique, GM allait en avoir un aussi. C'est une réalité. Ford a investi, je pense, c'est 750 millions de dollars dans, comment est-ce qu'il s'appelle le petit fabricant? Là?
Rivian?
Oui, Rivian. Ouais. Rivian qui est qui est aux États-Unis. On va utiliser la technologie pour fabriquer un véhicule. Bon, évidemment, c'est une planche. À partir de là, vous voulez quoi? Un utilitaire, un camion, un fourgon. Ford va probablement utiliser ça comme base. On a dit d'ici 2022.
Il parlait pour le F-150 hier de 2025. On essaie de se donner un petit peu de marge de manœuvre. Exact. Mais de Honda, j'ai rien entendu pour le Ridgeline.
Non, le Ridgeline, puis Honda, Honda est probablement la compagnie automobile qui avance le moins rapidement. Chez Honda, là, on pense à ces choses pendant 22 ans avant finalement la mettre sur le marché. Donc, la théorie des petits pas, là, c'est la façon de fonctionner du côté d'Honda. Là.
Bonjour Jean-François, on vous écoute?
Bonjour, oui. Toyota, cette année, ils proposent pour 2021 le RAV4 Prime. J'aimerais savoir si Toyota a l'intention d'introduire la Camry pour 2022 Prime.
Ah, bonne question. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas là, mais je sais que Toyota ont commencé par annoncer qu'il y aurait des modèles hybrides pour à peu près tous les modèles qu'ils font, ce qui est à peu près chose faite. On a même une Corolla hybride qui a été annoncée cette année. Là, le Prime est parti du Prius et on est rendu au RAV4 et on a amélioré l'autonomie. On annonce 63 km d'autonomie 100% électrique, ce qui est intéressant.
Excellent,
on arrive dans des chiffres que je commence, moi, à trouver intéressants. Est-ce qu'on va l'introduire dans d'autres? Écoutez, on a la mécanique pour le faire. Techniquement, c'est pas très compliqué de prendre cette mécanique-là parce qu'on a pris littéralement la mécanique du Prius Prime pour le mettre dans le RAV4. Donc, ça sera pas impossible, mais il n'y a pas eu d'annonce encore pour le Camry.
Merci. Maxime, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Je regarde pour la Subaru Outback, la nouvelle, la 2,4 litres turbo. Il me semble que moteur et turbo dans la même phrase, ça me fait peur à long terme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Carl Nadeau.
Ça, c'est un peu un éternel problème. Subaru n'a pas été impeccable dans le passé en termes de fiabilité. Là, ils ont gagné énormément de prix parce que c'est vrai que la traction intégrale est extraordinaire, mais on a toujours en effet une petite inquiétude. Le moteur 2,4 litres turbo, le turbo va être passablement sollicité, même si ce n'est pas un modèle très sport. Donc, ça demeure un point d'interrogation à long terme. C'est sûr que pendant que la voiture est garantie, bon, dans le pire des cas, il y a un petit problème, c'est réparé au concessionnaire, mais à partir du moment où est-ce que vous voulez garder la voiture longtemps, c'est difficile pour nous autres de vous dire foncer tête baissée pour la garder 8 ans. Là.
C'est pas très écolo, de toute façon, le turbo, non?
Ben oui, non, au sens où ça permet d'avoir des plus petits moteurs qui, quand on a besoin, vont procurer quand même passablement de puissance, parce qu'un turbocompresseur, c'est au besoin, quand on a vraiment l'accélérateur au maximum, ça va créer une surpression qui, là, va demander plus d'essence, c'est sûr. Parce que si on rentre plus d'air, on rentre plus d'essence. Mais en conduite
standard,
s'il n'y a pas trop de côtes, ça peut être extrêmement économique. Là. C'est sûr que vous allez à Charlevoix puis vous êtes dans les côtes. En montant, vous allez voir la surpression du turbo monter. Et là, malheureusement, l'économie va disparaître. Là.
Mais t'achèterais ça, toi, Carl, un véhicule avec un turbo?
Certains véhicules, oui, dans certains cas, mais j'avoue que j'aime le son. Moi, je suis quand même assez rattaché aux sensations, aux émotions quand je conduis. Et souvent, des véhicules qui n'ont pas de turbo ont un son plus agréable. Ouais. Je pense entre autres à Porsche. C'est quand les moteurs, les fabuleux 6 cylindres qu'il y avait de base dans les Boxster sont tombés avec des moteurs turbo. Pour moi, ça a coupé une partie de l'expérience de conduite. Là.
Ça serait quoi ton véhicule de rêve à toi?
Ça dépend des jours.
Ah!
Ouais, moi, j'ai besoin de 20 voitures pour être heureux,
écoute,
au sens où je me lève le matin, le ciel est bleu, il y a un petit vent. Ouais. Ça, c'est une journée convertible. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs modèles iconiques là, que j'adore. Les Porsche 911, les Boxster, dans Aston Martin, j'adore ces véhicules-là. J'en ai possédé, je vais en avoir d'autres. Ça, c'est assuré juste pour la mélodie du moteur. Là.
Ah, la mélodie du moteur.
C'est de la musique, c'est de l'art.
Elle est très bonne.
Oui.
Après la pause, Benoît va nous dire c'est quoi, lui, ses véhicules de rêve. Et bien sûr, vos questions et commentaires. On parle des nouveautés au Salon de l'auto. Évidemment, on parle beaucoup de l'électrique. Il y a une véritable frénésie autour des véhicules électriques. Dans la grande région de Montréal, pour nous joindre, vous faites le 514-790-9850 et de l'extérieur, le 1-866-790-9850. Michel Barrette est déjà arrivé dans notre studio. Là. Il est complètement fou. Il est malade. Là. On parle de voiture. Là. Il est tout excité. Là. Il fait la danse à Yeeha. Là. C'est de valeur que vous ne voyez pas ça, mais il s'en vient dans pas long. À tout de suite, tout le monde. Je On est de retour. Hey, on sort tous les grands classiques. C'est Sébastien Lapierre ici qui est aux commandes. Merci Seb de nous agrémenter ça de musique raccord. C'est le cas de le dire. On a Marie-Claude avec nous. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour. Moi, dans mon cas, on a un seul véhicule, alors on a opté pour un hybride branchable. Ouais. Rien d'acheter une Niro, mais on avait beaucoup hésité. Il y a la Honda Clarity qui nous intéressait beaucoup.
Oui, un peu dans la même catégorie, ça.
Oui, qui est un de mes véhicules préférés.
Avec une batterie plus grosse, avec exact. Une autonomie plus grande. Mais je vais vous dire ce qui a fait qu'on n'est pas allé de ce côté-ci. Entre autres, c'est que le guide de l'auto 2020 lui donnait une fiabilité de 4 sur 10.
Je suppose qu'ils ont pris ça.
Ça nous a inquiétés.
J'aimerais bien savoir.
Ça, c'est le compétiteur, ça? Toi, oui, c'est l'annuel. Dans l'annuel, vous autres, vous mettez quoi la note?
Dans l'annuel, c'est ma voiture préférée dans cette catégorie-là. Moi, je l'ai eu à deux reprises. Et à date, il n'y a pas rien eu qui a cloché sur ce véhicule-là.
Outre les ventes.
Ouais, outre les ventes. Puis bon.
Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il a été moins
populaire. On va se le dire poliment, là, elle aide. Hein?
C'est vraiment weird. Mais moi, j'aime bien.
C'est un concept de beauté japonais. Parce que pour un japonais, la beauté doit être une caractéristique qui ressort du lot, qui est différent de ce qu'on trouve.
Réussi
à 100%. Ouais.
Mais êtes-vous
côté rendement,
de...
côté confort, c'est vraiment, ça va très bien.
Et la Kia, vous êtes contente avec, Marie-Claude?
Oui, tout à fait. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'on a réalisé avec le temps, quand on veut du chauffage, mais on ne peut pas se mettre en électrique et considérer utiliser notre électricité pour se chauffer à l'intérieur. Automatiquement, c'est le mode hybride qui embarque. Donc, j'utilise l'essence à chaque fois que je dois faire chauffer l'habitacle. Ça, j'avoue, ça me déçoit parce que dans des petits déplacements où je me dis que dans mon 40 km d'autonomie, j'en ai en masse de toute façon et j'aurais voulu chauffer à partir de ma batterie électrique seulement qui est à l'arrière de la voiture, bien, ça se fait pas automatiquement. C'est le mode hybride qui embarque.
Faudrait que j'aille vérifier ça. Je vous avoue que vous me posez une colle.
Oui, je suis un peu mystifié, moi aussi.
Je vous le dis, ce matin,
j'en prends bonne note. Je vais faire un téléphone aujourd'hui. Là, moi.
J'aurais une question. Est-ce que ça vous faisait ça quand il faisait 0 degré dans ce coin-là ou ça le fait parce qu'il fait exceptionnellement froid aujourd'hui?
C'est que l'auto se transfère automatiquement.
Fait que même s'il fait 0 degré tout juste, ça fait la même chose?
Ben, il me semblerait que oui.
Bon.
Je vous dirais.
Mais...
Ce qui fait que souvent, je me chauffe les fesses avec le siège chauffant, le volant, puis j'essaie de chauffer le moins possible à l'intérieur parce que le véhicule m'inscrit dans le tableau de bord. Vous devez vous mettre en mode hybride. Et il se transfère automatiquement en hybride.
OK. Il va falloir investiguer. Honnêtement, là, parce que je ne veux pas vous donner une réponse.
Mais je suis sur des forums, là, parce que sincèrement, c'est intéressant comme question. Puis on ne le savait pas trop. Hein. C'est quand même quelque chose. Et effectivement, ce que je semble comprendre, c'est que ce que nous dit notre auditrice, c'est vrai. Il y a d'autres personnes là, qui le disent.
OK,
là.
OK. Ouais. Bon, ben on a un cas à aller vérifier ici.
Dès qu'on active le système de chauffage, c'est le moteur à essence qui se met... en route.
Okay. C'est bien mais pour dire, bon. Au Québec, c'est pratique.
Ben parce que là, tu sais, on va passer l'hiver, elle ne peut pas utiliser l'électricité.
Mais c'est un hybride, c'est ça qu'il faut
comprendre. C'est un hybride, c'est un hybride branchable, c'est-à-dire qu'il y a une autonomie électrique. Là. Vous avez
bien
l'hybride branchable.
Oui, elle a l'hybride branchable.
OK. Vous avez une 40, à peu près 45, 46 km de on dit 50, là, plus ou moins 50 km.
Oui, c'est ça. OK.
Mais on va aller vous vérifier ça. C'est un cas à vérifier ça.
Merci. Rami, bonjour.
Salut, messieurs, dames, ça va bien?
Ça va très bien.
Good. Moi, je cherche un véhicule de service style Mercedes Métris ou le Ford Transit Connect en électrique. Est-ce qu'il y a des plans pour ça dans le futur?
Pas à ma connaissance. C'est des petits fourgons. Fourgons commerciaux, mais de plus petits formats. Il y a le Transit Connect, il y a le Pro Master City. Il y a même le
Nissan.
Le Nissan, le NV200, le Metris. Il y en a quelques-uns sur le marché.
Ça, c'est un segment d'avenir, ces petites camionnettes-là, par exemple.
Éventuellement,
on va remplacer les 10 roues en ville. Ils pourront plus rentrer, puis ça va être la livraison comme ça, de plus en plus dans les capitales européennes.
On va se faire dans les drones aussi. On travaille beaucoup sur la technologie des drones. Je sais qu'en
Europe... Là, ils sont bien occupés avec les pénitenciers puis la livraison là-bas.
Oui. C'est un gros marché. C'est un marché de
l'Allemagne, il faut assurer le service.
Il y a beaucoup d'affaires entre le steak puis le téléphone cellulaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses cette semaine. Mais les camionnettes, c'est un segment prometteur.
C'est un segment.
Il y a des constructeurs québécois, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant.
Oui, il y en a là-dedans. Je sais que du côté de l'Europe, on se prépare à quelque chose du côté de Ford. On n'a pas annoncé si cette technologie là allait traverser l'océan Atlantique et se retrouver chez nous.
Mm-hmm. On a Gilles avec nous. Bonjour, Gilles.
Oui, bonjour. J'aimerais changer de véhicule pour un véhicule électrique, mais je me demande si ça vaut la peine à cause des coûts et puis de l'installation que ça prend. Moi, je demeure à Montréal, sur des rues résidentielles. J'ai un garage, mais il n'y a pas l'électricité dedans. Il n'est pas chauffé. C'est ça, je pourrais mettre une extension. Mais par contre, moi, j'ai une Kia Rio 2013 à 84 000 km. Je fais environ 12 500 km par année. Alors, c'est ça un peu les paramètres, là.
Mm-hmm. Honnêtement, selon votre utilisation, vous faites très, très peu de millage. Vous avez déjà une voiture qui est économique. Votre installation électrique risque d'être relativement compliquée parce que faut penser que quand on branche, on peut pas utiliser d'extension électrique. Ça prend vraiment un système qui est exprès, qui est direct sur la fiche. Et si vous mettez une extension, il y a risque de surchauffe, même de feu.
Puis donc, ça fonctionne pas.
Ah, oui.
Oui, puis ça,
oh, oui.
Normalement, le système, il risque de même pas s'activer à ce moment-là.
Donc, fais pas ça, là.
Volvo ne fonctionne pas parce que j'ai eu l'expérience. J'étais chez un ami puis j'avais amené ce que Volvo fournit. C'était trop court. Fait que j'ai dit, ben, puis il m'a prêté une extension là, extérieure.
Oui, les gens ne savent pas ça, je pense, il faut le dire. Là, vraiment.
Il met ça dans le mur, puis essaye pour réaliser que ça ne fonctionne pas.
Non.
Alors, si la longueur de ton extension ne se rend pas à une prise,
problème.
Oui, tu as un problème.
Puis si monsieur faisait 30-40 000 km par année, parce que là, on parle d'un investissement qui va être relativement conséquent pour installer la borne, le trouble du garage, etc., mais il semble que c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour faire si peu de millage. Au pire, un hybride branchable, il n'y aura pas plus de place pour le brancher.
Hey,
donc, je conserverais une petite voiture économique. Je pense que ce serait plus pratique. Là.
Voilà, c'est ça. Là, on parle beaucoup, beaucoup d'électrique, puis c'est conséquent avec l'espèce de frénésie pour les véhicules électriques. En ce moment, on n'a pas encore parlé des véhicules autonomes, mais ça, c'est l'autre affaire aussi. Il y a comme aussi là, un engouement. On va y venir d'ici la fin de notre segment. Je vous rappelle que par rapport à l'an dernier, quand même, tout ce qui est la zone, ce qu'on appelle la zone au salon, puis pour les voitures vertes, en tout cas, ça a triplé.
C'est
en matière
étage,
de véhicules électriques, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'au Québec, le nombre de voitures électriques immatriculées a grimpé de plus de 70 %. Alors, il y a un véritable entraînement. D'ailleurs, Carl était d'accord, Benoît disait tout à l'heure qu'on allait probablement, tu serais pas surpris qu'on atteigne d'ici la fin de l'année la fameuse cible de 100 000 véhicules.
On devrait être très près de là d'ici la fin de l'année, oui.
À moins de couper les subventions.
Ah oui,
là, ça pourrait mettre un stop.
C'est un lien direct cause à effet.
Ah oui, mais on le vend en Ontario. Ça a baissé de 65 % en à peine 3 mois quand on a coupé les subventions. Alors, c'est encore lié à ça.
En même temps, ce que Gilles nous fait dire, c'est qu'il y a aussi des véhicules, puis c'est ce que Carl disait, c'est qu'il y a des véhicules très peu énergivores qui sont des véhicules à essence.
Ouais. Parce que
je parlais avec Guillaume Lemaitre-Vierge hier, puis je parlais de son constructeur. Lui, il aime beaucoup Hyundai, évidemment.
Avec raison.
On se demande pourquoi.
Mais en même temps, il ne l'a pas fait en ondes. On parlait après les ondes, puis il me disait, écoute, il y a vraiment des véhicules à essence qui sont économiques et des fois,
Oui, puis il faut regarder
c'est
aussi...
C'est pas tout le monde qui est prêt pour l'électrique,
à ses besoins.
C'est ça que je veux dire.
Bon, c'est pas tout le monde et c'est pas tout le monde aussi qui est capable d'accueillir un véhicule électrique.
Puis de se le payer, parce que malgré le 13 000, qui finalement, d'après tes calculs de tout à l'heure, est comme plus 1-2 000.
Une fois que tu as tout ajouté, il en reste beaucoup moins que les gens pensent. Parce que les gens disent, OK, il vaut 40, j'ai 13, je vais payer 27. Non. C'est plus compliqué que ça, là. Parce que le 40, c'est sans les taxes, le transport, la préparation. puis on met ça par-dessus tout ça.
Dans le fond, c'est le gouvernement, puis c'est le constructeur, puis le concessionnaire qui se le mettent véritablement dans le...
Oui, parce que c'est le concessionaire qui s'organise avec.
Comme citoyen qui s'achète un véhicule électrique, et comme consommateur de l'électrique, t'as pas 13 000 piastres dans tes poches.
Non, on le voit jamais, cet argent-là. Il n'y a personne qui vous donne un chèque.
Ouais. On l'enlève. Même en termes de rabais, c'est pas 13 000 de rabais. Les gens pensent ça.
Non.
C'est finalement plus de l'ordre de 2 000.
Une fois fini,
pour un véhicule autour de 50, c'est ça.
On oublie des options aussi, comme le Prius classique. Un cas comme monsieur tout à l'heure, un Prius de base qu'on n'est pas obligé de brancher, c'est hyper économique dans la vie de tous les jours. Ça a une valeur de revente extraordinaire. Donc, pas nécessairement obligé de brancher sa voiture pour faire quelque chose de bien.
Vous allez faire moins de 5 litres au 100.
Tu ne nous as pas parlé de ta voiture rêvée.
Seigneur, je suis comme calme. Moi, ça me prend un garage avec au moins une quinzaine de voitures. Et on est dans les mêmes catégories de puristes.
C'est vrai.
Le moteur, pour nous, est bien important. J'en parle des fois. Moi, j'ai une Boxster S que j'ai achetée il y a quelques années. Puis, elle attend le printemps tranquillement. Pour l'instant, j'ai une place dans mon garage. Là, j'ose pas trop investir dans le plus grand parce que je sais que la collection va s'agrandir.
Deux mots, pont, élévateur.
Oui,
ça fait plus de place dans le garage.
Oui, mais on est un peu dans la même catégorie. Je n'ai essayé beaucoup de voitures, mais j'avoue que dans mes préférés à vie, il y a une Carrera GT chez Porsche qui est assez haut placée dans mon... Mais j'ai pas moyen
d'acheter. C'est juste le fun d'en parler.
C'est juste le fun d'en parler.
Il faut avoir des rêves dans
la vie. De temps en temps, on les roule. Les McLaren récemment que j'ai essayé aussi, on est dans de la machine.
On peut-être parler un petit peu justement des voitures qui font rêver au salon de l'auto. Là. On ne peut pas être que dans le concret.
Il y en a quelques-unes.
Il y en reste quelques-unes. Parce que si ça continue, il n'y en aura plus de salon de l'auto. Il y en a de moins en moins de salon de l'auto. Je vous demanderai d'ailleurs votre avis là-dessus. Est-ce que le salon de Montréal est là pour rester? Il y a des gens qui posent la question.
Moi, je pense que oui.
À tout de suite, tout le monde ne donne pas la réponse. Tout de suite, c'est un teaser.
Non, mais je vais dire pourquoi.
Après la pause.
Ça sent l'été.
Mais aujourd'hui, écoute, il fait froid, mais c'est une belle journée pour, il me semble, aller faire une balade en voiture.
C'est le début.
Il y a juste l'électrique ici qui est un problème aujourd'hui avec notre... Il paraît que c'est la deuxième journée officielle, selon les météorologues, où il fait vraiment moins 20. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'il fait...
On est en novembre, on s'en rappelle plus.
T'sais, il paraît qu'il fait... Tu sais, on a l'impression... Non, mais sincèrement, il n'y a jusqu'à maintenant que deux journées cet hiver où il faisait véritablement moins 20. Mais on a l'impression qu'on en a eu plus que ça parce qu'on devient frileux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, avec 40 % de baisse de charge, c'est un véritable enjeu aujourd'hui.
Le printemps, c'est dans 60 jours.
D'avoir une électrique.
Ouais. Le printemps, dans 60 jours.
Oui. Toi, j'aime ça. J'aime ton bel optimisme.
Grand poète.
On va parler à Karine rapidement. Bonjour, Karine.
Bonjour. Bon, moi, j'ai présentement une Honda Accord 2007 de 81 000 km.
Okay.
J'ai l'intention maintenant de changer. J'avais pensé peut-être une Camry ou Corolla ou, je sais pas, peut-être hybride. Je suis pas sûre, mais moi, je vais pas loin. Je vais à la retraite, je fais mon bénévolat. Et en tout cas, j'ai 81 000 miles depuis une dizaine d'années. Là, mm-hmm. Il va très, très bien, là. Hélas. Voilà.
Donc, qu'est-ce que Karine peut s'acheter?
Bon, écoutez, les deux choix qu'elle a donnés sont bons. Corolla, même Corolla, une hybride.
Oui,
présentement.
Tout à fait.
Mais si elle fait pas beaucoup de kilométrage, bon, d'abord, est-ce que...
Petite essence, ça peut marcher aussi.
Oui, est-ce que la Honda Accord est encore bonne? Parce que si elle est encore bonne, elle peut encore faire quelques années avec.
Ouais.
Ça, c'était mon dilemme, Benoît, au sens où cette voiture-là peut probablement rouler encore 10 ans sans problème.
Mais
inévitablement, il va arriver un matin où la batterie sera plus bonne, où l'alternateur va sauter.
Exact.
Pas parce que la voiture n'est pas fiable, juste parce que la voiture a 15 ans et plus.
Ouais,
donc oui, l'idée de changer, parce je pense que rendu à un certain âge, on veut de la tranquillité d'esprit.
Exact.
Donc c'est bon d'y aller avec la voiture neuve.
Camry ou Corolla, dans les deux cas, il n'y aura pas de problème, on va faire un autre 10 ans avec sans entretien ou
j'ai un bon
pas.
Commentaire de Jean-Marc qui dit présentement au Québec, les nouveaux ménages n'ont plus les moyens de se payer un véhicule neuf de 40 000 $ et encore moins un véhicule électrique de 50 à 70 000 à cause du coût de la vie, des maisons, tout ça.
C'est vrai.
Il a raison, je trouve, Jean-Marc. Puis évidemment, on est là depuis tout à l'heure, on parle de tous ces modèles et tout. Puis malgré le fait qu'on nous fait miroiter des 13 000 $ de rabais, dans le fond, dans la poche des gens, c'est un léger incitatif, mais qui semble marcher visiblement.
Oh oui.
Mais c'est quand même des véhicules chers. Moi, aujourd'hui, je trouve que les véhicules sont chers.
Ben, tu sais qu'en novembre 2019, donc il y a un mois et demi à peine, on a dépassé pour la première fois au Canada les 40 000 $ comme prix moyen d'achat d'un véhicule neuf. 40 490 $, c'est ce que ça coûte aujourd'hui. Et les véhicules d'occasion, la moyenne est à 18 888.
Ils sont très populaires.
Oui, puis on comprend. Quand on a des budgets qu'on calcule, qu'on a une jeune famille, qu'on a payé une maison, qu'on a payé son épicerie,
ou à la
l'école,
retraite,
enfants,
moins de revenus. Tu sais, y a des
à la retraite, les gens font plus attention.
La précarité des emplois,
puis les gens, bon, souvent, ont plus de salaire, donc font attention. Donc, il faut compter qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent encore des véhicules à moins de 20 000 $.
Mais il y en a beaucoup. Ça, c'est une chose, on parle tellement d'électrique qu'on semble oublier qu'en bas de 15 000 $, tu peux avoir une voiture neuve qui souvent...
Non, moi,
va
des
avoir,
noms, on veut des noms.
Ben, tout ce qui est le Mitsubishi Mirage qui viennent de renouveler, qui ne coûte rien, Nissan Micra, toutes ces...
C'est des bons véhicules quand même, c'est sécuritaire.
La Rio qui est encore dans ces prix-là. On a annoncé la nouvelle Nissan Sentra qui commence à 18 898 $. Donc, on peut avoir pour 20 000 $ un véhicule neuf qui est tout à fait honnête.
Hey, Diego veut acheter la Honda Accord de... C'est Karine là, à qui on vient de parler. Fait que si vous voulez vendre votre Honda 2007, j'ai un client pour vous. Je prends pas de cote. Fait que il nous reste peu de temps. Je voulais juste parler là, de ces véhicules qui nous font rêver au salon de l'auto.
Oui.
Vous parliez de Ferrari, Carl.
Ben,
toi,
ils ont
qui
fait
est un...
quelque chose d'extraordinaire au salon. Ils ont regroupé vraiment tous les manufacturiers qui font rêver parce que beaucoup de monde vont au salon de l'auto pour
ça,
rêver.
C'est ça, Jean-Marc. Il dit, moi, je paye pas pour aller voir des voitures qu'on veut me vendre, mais il y a des gens qui y vont pour voir ces modèles qu'on n'aura jamais les
Et vous allez toutes les voir dans le même coin. Il y a McLaren qui est là, Lotus qui revient,
Lotus.
Enfin, avec une voiture, avec le nouveau
Evora.
La Evora,
qui est en Europe, qu'on attendait ici.
Enfin.
Ça, c'est magnifique, ça.
Avec du carbone, plus de puissance. Puis c'est dans le prix d'un Porsche 911. Là. Donc, il y a moyen d'avoir à peu près 140 000 dans ces eaux-là. Elle est vraiment très belle. Après ça, vous avez, bien sûr, Lamborghini qui est là, avec la voiture la plus rapide sur le Nürburgring, l'Aventador SVJ, qui est quelle machine.
Oui.
Ferrari, bien sûr, trois véhicules extraordinaires qui sont là. Donc, oui, il y a un coin exotique, vous pouvez rêver. Il y a même un NSX GT3 de course.
Les Ferrari, c'est lesquels, Benoît?
Ferrari, on a la Tributo qui est là.
Oui, la 812 est là. 488 Pista Spider.
Ah oui, la Pista.
Messieurs, merci beaucoup. Benoît Charrette, Carl Nadeau.
Il y a l'annuel de l'automobile.
Oui,
on va être
bien sûr. Ben écoute, tu vas le plugger demain. Tu le plugeras demain à mon collègue Paul Houd, puisque vous serez en émission spéciale demain matin en direct du Salon international de l'auto. Une nouvelle qui vient de tomber, les amis. Grande nouvelle au Québec qui va vous toucher. Maman Dion s'est éteinte à l'âge de 92 ans. On s'en reparle après les nouvelles.